qui laissait prévoir un court pontificat, ce qui peut-être était dans les intentions de ses électeurs. Il avait été légat de Sicile et précepteur de ce grand turbulent de Frédéric qui bénéficiait de son indulgence, l'indulgence que l'on a pour un enfant doué et difficile. Son humour naturel le portait à la conciliation, mais ne le privait pas d'un sens aigu des réalités. Il y avait en lui un financier de premier ordre, et lorsque François vint se présenter à ce bon connaisseur d'âme, celui-ci dut s'interroger comme Innocent III, non sur la mission de l'homme simple et pur qu'était le Poverello, mais sur les graves problèmes matériels que posait l'organisation de ce nouvel ordre. Il aima François. On pourrait ajouter que cela allait sans dire, et qu'il admirait son idéal et sa folle générosité de cœur, mais... Un de ses premiers soins fut de sacrer Jacques de Vitry, évêque d'Acre. Et ce dernier, bien placé pour voir ce qui se passait à la curie, reçut une mauvaise impression de ce milieu dominé par l'intrigue. Les affaires du monde passaient avant tout. Il faut dire qu'elles étaient d'une complication sans égale. En Sicile, Frédéric II exerçait le pouvoir au nom de son fils Henri, âgé de 5 ans. Et le pape ne pouvait, sans appréhension, voir se reconstituer le redoutable empire des Hohenstaufen. En France, Philippe Auguste tenait tête à Rome, comme d'habitude, pour ses histoires de femmes, et continuait à agir en arbitre de roi. Le prince héritier, futur Louis VIII, soutenait ouvertement la cause des barons anglais en révolte contre Jean sans terre, à qui il avait imposé la Grande Charte. Le roi Jean mort, comme dans Shakespeare, s'ouvrait une succession difficile. Son successeur, Henri III, avait 9 ans, et ce furent les légats de Rome qui gouvernèrent à sa place. On conçoit l'éloignement qu'un Jacques de Vitry éprouvait pour cette agitation politique où la passion du pouvoir, hochet ou grelot de fou, jouait son rôle néfaste. Il n'en était que plus sensible à l'idéal franciscain, qui était tout amour, comme dans les premiers temps de l'Église chrétienne. Sur la communauté de François, ses éloges ne tarissaient pas. Ils n'ont qu'une passion. Arrachés aux vanités du monde, les âmes en péril. Leur manière de vivre est celle de la primitive Église. Le jour, ils se donnent à la vie active et à l'apostolat. La nuit, ils se retirent dans leur solitude pour mener une vie contemplative. Après le couronnement du pape, il quitta Pérouse pour retourner en France prêcher la 5e croisade et ne devait revoir François que dans les pays d'outre-mer. Tous au paradis. De son côté, François se remit en route pour regagner la Portioncule. Lui aussi dut s'interroger sur tous les événements dont il avait été témoin. Présenté à Honorius III, qu'avait-il obtenu de ce vieillard bon mais prudent? Des paroles d'encouragement et une bénédiction. C'était bien, c'était même beaucoup, mais pas assez. Cependant, quelque chose d'une importance considérable se préparait. Ici, nous sommes obligés de nous en remettre au récit d'un franciscain, frère Bartoli d'Assise, décrivant un siècle plus tard, en 1335, le récit d'une vision de François. Alors qu'il était en prière dans l'église Sainte-Marie des Anges, une nuit de ce même mois de juillet, le Christ lui apparut avec sa mère, l'engageant à demander une grâce qui glorifia Dieu et sauva les hommes, et pour cela, de retourner aussitôt à Pérouse présenter sa requête au pape. François ne résista pas au désir de faire une demande énorme à la mesure de son cœur. Même sans cette vision, il nous paraît capable d'aller jusqu'aux dernières limites de l'audace dans le domaine de la charité. Sauver l'humanité. Comment ne pas se rappeler la prière que fit à son tour le père de Foucault ? Mon Dieu, faites que tous les hommes soient sauvés. C'est dans un état d'esprit semblable que François, en compagnie de frère Masséo, s'en fut retrouvé le seigneur pape. Son plan était bien arrêté. Fort de la permission du Christ, il allait demander une indulgence gigantesque. À Pérouse, il obtient son audience.